Ah,
je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis. Ton alcoolique et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec sur la tête. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est
quoi?
C'est quoi? C'est quoi? C'est
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout. Attends, paniquez pas, niquez tout. Paniquez pas, niquez tout. Paniquez pas, niquez tout.
Bonsoir, 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 bonsoir,
bonsoir.
Il est 19h02 ce vendredi 22.
Et vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info, bien évidemment.
Et oui, et on va commencer dans ce Canu Info du vendredi, préparé pour tout vous dire de manière un peu compliquée, parce que vous savez peut-être pas tout, mais en ce moment il y a des travaux à Radio Canu. Du coup, on a été délocalisé, alors on va faire ce qu'on peut. On va en tout cas commencer dans la rubrique locale par vous faire un petit retour de la manifestation qui a eu lieu hier à Lyon.
On parlera ensuite, enfin on écoutera un petit enregistrement avec une personne qui s'appelle Clara, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Andy Gang, et qui était la semaine dernière présente à La Griffe pour présenter son livre.
On vous fera aussi un petit point, un petit retour sur la semaine de procès qu'il y a eu cette semaine à Paris autour de la voiture brûlée.
Et puis il y a des soutiens qui se manifestent un petit peu partout en France aux camarades qui sont impliqués pour avoir brûlé cette voiture. Et du coup, on vous fera un petit point là-dessus, ainsi qu'un point sur la répression de plus en plus forte qui s'exerce vis-à-vis des médias libres.
Répression toujours, des perquisitions ont eu lieu cette semaine à Bure, on vous en donnera deux mots.
Et puis, toujours dans la rubrique nationale, on vous fera un petit point sur les ordonnances de loi travail. Vous en avez forcément entendu parler. Il se trouve que notre cher président Emmanuel Macron les a signées aujourd'hui. Et en même temps, lui et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et notre cher maire à tous, notre ancien maire, parlent de la fin de l'état de droit plutôt que de celle de l'état d'urgence.
Et on finira, comme toujours, avec un fabuleux agenda. Plein de choses à venir la semaine prochaine, et puis des éditos, et la sortie d'un magazine super, tout ça, on vous racontera ça à la fin de l'émission.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons...
Je voudrais qu'on ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici...
Et vous les touchez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. En chantant résiste.
Et donc, retour sur la manifestation qui s'est passée hier à Lyon. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la semaine dernière, mais même depuis le printemps dernier, des manifestations ont lieu partout en France pour contester la loi travail. Hier, c'était donc environ 10 000 personnes qui se sont rassemblées et ont manifesté dans les rues de Lyon. Une manifestation qui a été du coup assez massive, mais assez calme, sous un ciel bleu, voilà, il faisait beau. Rien de notable à spécifier, à part qu'effectivement il y avait pas mal de monde, qu'il y avait aussi pas mal de monde à Paris, à Marseille et ailleurs. C'était des manifestations plutôt bien suivies. pas de date là à vous donner précisément. Après, sans doute, des rassemblements auront lieu donc contre la politique de Macron et puis la loi travail. Et puis aussi, après, plus globalement, on vous en dira deux mots dans les rubriques à suivre sur diverses répressions qui ont lieu pour diverses raisons partout en France.
Et puis du coup, on vous rappelle aussi que pour la construction du mouvement social, il y a les manifestations, il y a bien évidemment aussi le fait de faire grève et de pouvoir bloquer des points d'appui stratégiques de la production française, mais pas que. Il y a le fait de pouvoir bloquer des endroits, de pouvoir les occuper. Vous pouvez par exemple trouver un texte qui a été publié récemment sur le site rebellion.info qui s'appelle « Blocage, occupation, des points de départ pour le mouvement qui vient ». Et si on enlève le côté un peu insurrectionnaliste du titre, ça nous rappelle aussi les multiples moyens de créer un mouvement social qui sont la manifestation, point de rencontre entre les personnes, les agiles luttes qui a souvent après, point peut-être d'organisation entre les personnes pour aussi d'autres types de manifestations.
Et tout de suite, on écoute une interview de l'auteur du livre Andy Gang.
Alors, Karazina, toi tu es à Lyon pour présenter ton livre Andy Gang. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu de quoi ça traite ?
Donc c'est l'histoire d'une bande de jeunes handicapés ou solidaires qui décide d'imposer l'accessibilité par la force. Il y a des jeunes en fauteuil, sourds, autistes, aveugles, qui se sentent simplement différents et qui en ont marre d'attendre pour plus de représentativité, plus de visibilité, plus d'accessibilité. Ils en ont un peu marre d'être invisibles, d'être confrontés un peu à l'indifférence ou à la malveillance pour certains du reste de la société, alors que finalement ça pourrait être n'importe qui demain, et ils ont envie d'un peu d'en faire prendre conscience au reste du monde.
Et du coup, dans le livre, il y a deux narrateurs à chaque fois. Il y a la maman de Sam, qui est la personne en fauteuil roulant, et Sam qui parle aussi, donc les deux personnes parlent au jeu. Et c'est ça qui est intéressant, enfin en tout cas moi quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir la complémentarité à chaque fois, enfin d'avoir les deux subjectivités qui s'entrecroisent. Je me demandais du coup comment, enfin si c'était difficile à écrire de parler de deux subjectivités différentes en même temps.
Je pense que je suis un peu dans les deux personnages qui parlent à la première personne du singulier, en fait. Quelque part, je pense que je projette des trucs à moi dans la mère et des trucs à moi dans le fils. Et les autres personnages, effectivement, sont à la troisième personne du singulier parce que j'ai plus de distance avec eux, même si je pense que je suis un peu dans tous les personnages. Mais ils sont plus inspirés de personnages que je connais, que j'ai rencontrés ou que j'ai pu fréquenter. Et bon, le point de vue de la mère, évidemment, il m'est facile de me l'approprier puisque je suis quand même un petit peu dans cette situation. Le point de vue du fils, quelque part, c'est aussi un peu ma jeunesse, ma rébellion d'adolescente que j'ai transmis dans le personnage.
Et c'est quoi qui t'a donné envie d'écrire ce livre ?
C'est évidemment un peu mon vécu au niveau de mon gamin qui est un peu dans cette situation de handicap, et tout ce que j'ai pu croiser de par son traitement ces jours en centre de rééducation. J'ai aussi une expérience de par mon métier puisque je travaille avec des sourds. Enfin, j'ai accueilli à l'école, de toute façon pour de bon, l'école maternelle accueille tout le monde. Donc j'ai eu des sourds, des autistes, j'ai des copines qui ont des gamins aussi en situation de handicap, très différents, mais qui du coup m'ont donné envie de m'intéresser à leur association. Et de toute façon, c'est vrai que je me suis toujours un petit peu intéressée quand même au sort des minorités, quelles qu'elles soient. Je pense que c'est une minorité comme une autre, enfin, que ce soit la représentativité des homos, des lesbiennes, des obèses, des noirs, des arabes, des roms, dès que quelqu'un ne rentre pas dans le moule de la majorité qui peut faire avancer la société de profit, c'est vrai que c'est difficile de s'affirmer, de s'autoriser à vivre en assumant sa spécificité. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut développer aussi au point de vue du handicap, le be black and be proud. Je pense que si vous pouvez le décliner sur be handy et be proud, ça pourrait effectivement rendre le sourire à pas mal de gens. Et surtout qu'encore une fois, ça peut être vraiment toi, moi, n'importe qui demain. Et pourtant, il y a encore assez peu de gens qui se sentent concernés par le sort des personnes en situation de handicap.
Et dans le livre, à un moment, tu fais référence à des collectifs de lutte de personnes handicapées qui avaient eu lieu avant. Ça, c'est des collectifs qui ont vraiment existé.
Les handicapés méchants ?
Oui. Oui.
J'étais à la griffe hier et moi, j'ai raté, mais mon ami Bob, il en a trouvé plein. C'est la revue qui s'appelait Les handicapés méchants. Leur collectif, il s'appelait autrement, je ne sais plus comment exactement. Mais on peut retrouver en tout cas des archives. Oui, c'est des collectifs qui ont existé. Dans les années 70, les autonomes étaient... Enfin, il y avait vraiment un collectif d'handicapés au sein des luttes autonomes qui était très actif. Alors après, maintenant, il y a encore des petites choses qui se font. Hein, visiblement, quand même, des initiatives personnelles. Là, il y a un mouvement tournant devant les MDPH depuis le 14 septembre pour contester la fin des emplois aidés. Il y a des gens qui se bougent, mais... encore assez peu nombreux et surtout assez peu médiatisés, assez peu relayés. Même la communauté sourde est très militante et se bouge beaucoup, mais c'est vrai que c'est ce qu'on dit dans le livre, la marche de Paris à Milan, ça a vraiment eu lieu et c'est vrai que ça a vraiment été dans l'indifférence générale, on n'en a jamais entendu parler.
Oui, c'était quand même une marche de 42 jours il y a quelques années et c'est vrai que ça a été peu médiatisé par rapport à ce que ça a été.
Il y a eu un film documentaire en fait qui a été fait il y a pas longtemps, J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd, un truc comme ça.
Oui.
C'est là que j'en ai entendu parler, moi j'en avais jamais entendu parler même en m'intéressant à leur lutte.
Mais c'est ce livre, je sais pas si tu l'as écrit aussi peut-être pour essayer de fédérer des envies aussi de lutte.
Bah, j'avais pas cette prétention, mais j'ai l'impression que ça peut-être effectivement donner lieu à des choses intéressantes, parce que là, à chaque fois que j'ai fait un débat ou une lecture ou quelque chose, il y a eu quand même... maintenant, j'ai eu vraiment des relais de la part de sourds, d'aveugles, d'autistes. Ça a été pas mal... enfin, je suis contente de cet écho, parce qu'honnêtement, je l'avais plus écrit à l'égard des valides, pour changer le regard des valides sur le handicap, et justement en essayant de faire un personnage de mère un peu rigolo, avec ses histoires de cœur, avec enfin quelque chose qui pouvait parler à tout le monde, même qui se sentent pas concernés par le handicap, et le but étant justement de banaliser un peu des héros avec cette spécificité, mais qui n'était pas le centre forcément de l'histoire. Et en fait, si en plus ça peut... éveiller des consciences et d'en redonner le sourire et la niaque à des personnes en situation de handicap, j'en suis super contente. Et là, a priori, c'est vrai qu'il est quand même bien perçu. J'avais un peu peur, moi, du retour. Je me disais, peut-être ils vont se sentir mal servis, enfin, caricaturés. Et pour l'instant, franchement, les retours sont bons. J'ai eu pas mal de gens vraiment en situation différente qui m'ont dit « Super, c'est vraiment le cri qu'on voulait pousser depuis longtemps et on se sent... relayer, et si ça peut... Donc là, il est réimprimé parce que les premiers ont été vendus, et si ça peut continuer à transmettre le message, ce serait super, et donner des idées à d'autres auteurs ou réalisateurs, ou qui est effectivement des personnages comme Sam, comme Emma.
Et la lutte dont tu parlais devant les MDPH pour avoir plus de contrats aidés, c'est dans quelle ville? C'est au niveau
national? Ben alors pas à Nancy justement, mais à Lyon. J'ai vu qu'il y en avait à Tours, à Lille. Là, à partir du 14 septembre, je crois que c'était, il y avait des sittings organisés devant les différentes MDPH des plus grandes villes. J'ai vu passer, oui, Nîmes, Lille, Lyon, Paris... Et je sais pas trop encore ce que ça a donné, mais peut-être que ça va faire réagir un peu, je sais pas. C'est compliqué, parce qu'en plus, c'est vrai que ils sont pas très nombreux à se faire entendre. Ça commence quand même. J'ai vu aussi aux États-Unis là qu'il y avait des gens en fauteuil qui avaient manifesté, qui avaient investi le Congrès, et où effectivement les flics se trouvent quand même un peu gênés de sortir des gens en fauteuil manu militaire.
Et du coup, maintenant, là, tu as encore des tournées de prévues en France. C'est quoi les prochains rendez-vous?
Là, le prochain, c'est une dédicace dans une librairie. Le 27 septembre, au Centre Autogéré à Nancy, je fais un débat, un petit peu comme j'ai fait à la griffe hier. Ça, c'est fin septembre. début octobre, je crois que c'est le 7 octobre, je fais une dédicace dans une librairie à Thionville. Et puis il y a les Hauts-de-Belleville à Paris qui est une MJC qui s'est arrangée avec un foyer de jeunes handicapés et la bibliothèque Oscar Wilde pour m'accueillir aussi pour une présentation du livre et un débat. Ça c'est le 28 octobre. Et le 14 octobre, il y a les 20 ans, je crois, de ma maison d'édition Libertalia à Montreuil, où je vais présenter aussi le bouquin avec Nicolas Houguet, que j'avais fait venir à la radio, un homme en situation de handicap qui écrit très bien sur un site qui s'appelle L'Albatros, qui est critique littéraire et qui chronique énormément de bouquins et qui avait particulièrement aimé le mien parce qu'il résonnait particulièrement lui, quoi. Donc c'est lui qui va animer le débat à Montreuil.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et donc, dans la rubrique nationale ce vendredi, vous en avez sans doute entendu parler cette semaine. Tous les médias l'ont un peu repris, chacun à leur sauce et comme ça les arrange. C'était donc le procès de la voiture brûlée, qui se déroule sous une forte pression médiatique. On a un peu l'impression qu'il s'agirait de faire de ce procès un peu un procès exemplaire. Celui du mouvement contre la loi travail, mais aussi plus généralement celui d'une hostilité diffuse contre la police. Alors, cette voiture brûlée, ça remonte à mai 2016. C'était un contexte où les policiers faisaient des manifestations et du coup, dans ces manifestations-là, une voiture avait été brûlée par des militants. Du coup, ce procès se tient depuis mardi cette semaine, en sachant qu'il y a eu 9 personnes inculpées et que sur les 9, 2 personnes sont encore actuellement en prison. Le procès devait commencer mardi au TGI de Paris. Il a été reporté parce que, le procès a été reporté parce que la salle était trop petite pour recevoir tout le monde et que tout le monde voulait pouvoir assister au procès. Du coup, il a été annulé et reporté au lendemain. Donc, il a commencé en fait vraiment mercredi. Mercredi, il y a 4 personnes sur les 9 qui ont été entendues, dont les 2 personnes qui sont encore actuellement en prison. Sur les 9 personnes, au total, il n'y en a que 8 qui ont été entendues parce qu'il y en a une qui est en Suisse et qui ne s'est pas présentée. Et donc, hier, les 4 autres personnes ont été entendues. Donc aujourd'hui, devait se tenir, les parties civiles devaient faire leurs demandes, le procureur devait faire ses réquisitions et puis les avocats de la défense devaient plaider. Donc ça devait se tenir aujourd'hui. Le contexte a été un contexte quand même assez tendu toute la semaine lors des audiences. Il y avait des flics du syndicat de police Alliance qui étaient là en civil pour soutenir du coup leurs petits copains, copines. Il y avait aussi plein de copains, copines des militants qui était là. Il y a eu pas mal de heurts entre tout le monde. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées mercredi soir en sortant du tribunal, a priori parce qu'ils auraient collé des autocollants dans la salle d'audience et que du coup ils se sont fait interpeller, arrêter. Ils ont été placés 24 heures en garde à vue. Ils sont sortis hier, c'est ça, après 24 heures. Donc apparemment sans suite pour le moment. Donc voilà, il y avait tout un contexte quand même assez tendu de répression et notamment contre les militants antifascistes et autres. C'est un procès qui a été couvert médiatiquement vraiment assez largement. Aujourd'hui, les dernières infos qu'on a, elles sont aussi assez vagues. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que 4 ans de prison ferme ont été requis contre Antonin Bernanos, qui serait soupçonné d'être le meneur de l'attaque. Et donc, le parquet a demandé des peines allant de 12 mois avec sursis à 8 ans de prison ferme contre les 9 prévenus. Donc voilà, donc 5 ans de prison, dont un avec sursis contre le militant antifasciste Antonin Bernanos. Et puis après, pour les 8 autres personnes, c'est des peines de graduées allant d'un an d'emprisonnement avec sursis jusqu'à donc 8 ans. Ça serait pour l'incendiaire présumé, la personne qui était donc absente au procès cette semaine. Voilà. Les dernières infos, c'est assez général. Il y a tout un suivi qui a été fait, compte rendu jour par jour sur le site Paris Lutte Info. Je pense sur le site Lundi Matin aussi, il y a un suivi qui a été fait.
Oui, un suivi qui a été fait dans lequel on se rend assez bien compte quand même du fait qu'il y a un certain nombre, enfin la plupart des dossiers sont quand même complètement vides. Mmh. Il y a eu des scènes assez absurdes lors de ce procès qu'on pouvait voir sur les suivis en direct qui montraient que parfois on demandait à des gens, des prévenus de se reconnaître sur des photos qui n'étaient manifestement pas eux, ou qu'on les accusait sur la base du fait d'avoir un caleçon qui serait de la même couleur que celle qui a été prise sur une photo. Des dossiers qui sont très très maigres pour l'essentiel, même si effectivement il y a quand même des prévenus qui ont reconnu des faits, donc c'est probablement eux qui ont écopé des peines les plus lourdes, enfin écopées pour l'instant, qui sont où il y a eu les réquisitions les plus lourdes, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre eux il n'y a absolument aucun début de preuve, ou en tout cas c'est très difficile de l'amener. Et donc effectivement il y a bien ce que tu disais au début, c'est-à-dire un truc de faire de ça un procès exemplaire contre toutes celles et ceux qui un petit peu se lèvent contre les violences policières et se levaient en 2016 contre la loi travail.
Et effectivement, si on peut entendre sur les médias dominants que c'est un procès face aux casseurs entre guillemets qui n'aurait pas ni de volonté ni du but politique, c'est évidemment pas ce qu'on pense, ni ce qu'on relaie, ni ce qu'on revendique. Et c'est pas ce que pensent, ni ce que relaient, ni ce que revendiquent d'autres personnes partout en France. Et il y a une multiplication des soutiens face à ce procès, de soutien aux prévenus, et peut-être aussi de mise en garde face à l'État qui essaie de faire un procès qui se veut être un procès exemplaire, mais qui surtout prouve le niveau de répression dans lequel on est aujourd'hui. Et évidemment, du coup, ce sont des soutiens qui parfois s'adaptent aux symboles de l'État. On en recense beaucoup, mais peut-être le plus médiatique ou celui qui va faire le plus grand bruit est celui qui s'est passé à Grenoble dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 septembre. Du coup, avant-hier, il y a eu effectivement un violent incendie qui a partiellement détruit un garage de la caserne de gendarmerie de Grenoble qui abritait une 50aine de véhicules. Et alors, une fois que ce gros incendie a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, on a pu lire le jeudi 21 septembre sur le site Indymedia Grenoble un communiqué de revendication de cet incendie que je vais vous lire. Ça s'appelle Solidarité incendiaire, revendication de l'incendie de la gendarmerie de Grenoble, qui a été publié anonymement le 21 septembre. Ce jeudi, à 3h du matin, deuxième jour du procès de la voiture brûlée, avons pénétré dans la caserne de gendarmerie Vigny-Musset, avons incendié 6 fourgons d'intervention et 2 camions de logistique. Le garage et l'entrepôt ont été ravagés sur plus de 1500 m². Cet acte s'inscrit dans une vague d'attaques de solidarité avec les personnes qui passent en procès ces jours-ci. Forte accolade à Cara et Crème. Une pensée pour Damien, récemment tabassé par les flics. Quelle que soit l'issue du procès, on continuera à s'en prendre à la police et à la justice. Notre hostilité est un feu qui se propage. Des nocturnes. Voilà, c'était ce qu'on pouvait lire sur India Grenoble, mais aussi un message qui a été relayé sur plusieurs sites, notamment India Nantes, mais vous pouvez retrouver sur beaucoup de sites qui sont des sites alternatifs et souvent libertaires et anti-autoritaires. On vous en parle et on vous parle aussi du coup d'India Grenoble parce que c'est pas évident aujourd'hui de pouvoir revendiquer ces actes de soutien parce que la répression se fait, comme on l'a vu sur le procès, évidemment sur les personnes mais aussi du coup sur les moyens de communication entre les personnes. Et ça se retrouve, du coup, on vous en avait parlé, mais on trouve que c'est assez intéressant de vous en reparler aujourd'hui, de l'interdiction du site Indymedia Linkshunten. Et du coup, on remercie le site Indymedia Grenoble d'avoir permis le relais de cette revendication de l'incendie de la gendarmerie de Grenoble. Et on a trouvé assez intéressant que cette solidarité incendiaire qui apparaissait sur le site apparaisse à côté d'un communiqué de Indymedia Grenoble qui est en soutien au site Indymedia Linkshunten qui a été fermé suite au G20 de Hambourg. Donc on avait envie de vous lire une partie de ce communiqué puisque finalement c'est les deux informations essentielles qu'on peut lire sur les sites anti-autoritaires grenoblois aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut lire sur le site d'Indymedia Grenoble ? Full bordel, crée un média, ils interdisent Indymedia Linkshunten, mais nous, on les soutient. Même si à quelques exceptions près, il en a été peu question sur Indymedia Grenoble en juillet dernier, se tenait à Hambourg le sommet du G20. Pendant ce temps, le site des compagnons d'Idi Menia, Linkswinton, a été un relais fort pour l'organisation des contre-manifestations en tant que média libre, où chacun peut publier ses textes et ses récits. On pouvait ainsi y trouver des comptes rendus et des analyses des événements traduits en plusieurs langues. Le site existait ainsi depuis 8 ans et on lui doit, entre autres, nous rappelle Idi Menia Nantes, des feeds d'un chat internet de l'AFD, qui est le parti allemand populiste de droite, qui montre les propos nazis qui y sont dits, un article démontrant les liens entre un néo-nazi et la police de Leipzig, la révélation de l'identité d'un incendiaire de droite qui était aussi un informateur de la police, des recherches sur le mouvement identitaire révélant sa structure organisationnelle, ou encore des fuites sur les données des consommateurs d'une boutique en ligne néo-nazie, montrant que des parlementaires allemands y faisaient leurs courses. Un tel succès devait avoir un contre-coup, à un moment ou à un autre. Le 25 août dernier, 4 logements et un centre commercial autogéré, le Kulturtreff, ont été perquisitionnés, avec parfois l'intervention d'une vingtaine de quarts de police. Suite à ces perquisitions, pendant lesquelles du matériel informatique a été saisi, 3 personnes suspectées de gérer le site ont été sommées de rendre le site indisponible. Et voilà, donc c'était pour vous parler évidemment du procès, mais aussi pour remercier les camarades qui relaient ces informations-là, qui permettent aussi le fait que des Canu Info comme le Canu Info du vendredi existent en partie parce qu'on a accès à certaines informations. On pourrait par contre aussi vous parler de d'autres types de médias comme le Dauphiné Libéré et de comment est-ce qu'ils ont traité cet incendie. Et
oui, parce qu'on a aussi accès, mais il n'y a effectivement pas que les médias libres qui souffrent de répression, il y en a qui payent, sont les médias libres, ils ont du mal là, à payer tout ça, puis il y a ceux qui engrangent, et pour engranger, il n'y a rien de mieux que de faire des articles un petit peu vendeurs pour que les clics aillent vite et que la publicité rentre rapidement dans les caisses. C'est le Dauphiné Libéré que on appelle le Daubé communément, il porte pas son nom pour rien quand même, nous a donné un très bon exemple de ça. Donc c'est un peu un compte-rendu live, c'est pour ça que c'est parfois un peu haletant, mais sur l'affaire de l'incendie de la gendarmerie de Grenoble, le Dauphiné Libéré s'est quand même assez lâché, parce que vous savez maintenant les journalistes, on le voit beaucoup sur aussi les grosses plateformes telles que Lemonde.fr, Le Figaro ou autre Libération, ils font des lives pour à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est pas pour rendre compte d'une information qui évolue vraiment, mais parfois pour faire un peu monter la flamme, et puis c'est bien, ça pousse les gens à revenir, actualiser la page, etc. Donc c'est extrêmement rentable en termes de quota publicité. Alors là, ils se sont livrés à un truc assez absurde qu'on va un petit peu décrypter en live. Alors ils commencent ce matin à 7h du mat avec un info finalement relativement factuel, où ils annoncent que le commissariat, en tout cas non, la gendarmerie de Grenoble a été incendiée. Et puis ensuite, c'est assez vite ambiance sécuritaire. On relaye tout de suite, très vite, les expressions de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui se dit évidemment indigné. Que pourrait-il dire d'autre, dans le fond? C'est ça aussi tout l'intérêt d'un live, c'est que tu n'y apprends rien. Le ministre de l'Intérieur est totalement indigné quand la gendarmerie brûle. Normal, quoi. C'est un petit peu logique. En attendant, à 13h30, ils font un grand acte de bravoure et ils publient un communiqué, donc le communiqué de revendication qui a été lu jusqu'à présent, tout en précisant bien qu'il n'a pas été publié chez eux en premier, parce que ça pourrait éventuellement les incriminer d'un point de vue légal, mais ils sont quand même bien contents de le relayer, parce que ça doit quand même pouvoir faire du clic. Et ça, c'est vraiment chouette pour les publicités. Alors, je répète beaucoup publicité, mais c'est quand même beaucoup lié à ça, ce traitement de l'information, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'adhésion du Dauphiné Libéré, comme par exemple ici du Progrès, à une idée... une idéologie néolibérale et réactionnaire, et il y a en même temps les enjeux qui les guettent d'un point de vue financier, qui expliquent un petit peu ce genre de suivi absurde, médiocre et finalement assez dégueulasse. Et puis en fait, d'ailleurs, dans le dégueulasse, ils se vautrent après 13h30, vers 16h55, complètement dans le glauque. Ils ont d'ailleurs à un moment fait leur titre, en faisant un lien quand même assez compliqué entre l'affaire Maëlys. Donc l'affaire Maëlys, c'est cet enfant qui a été a priori enlevé et tué lors d'un mariage, donc quand même quelque chose de un fait divers, glauque, etc. Et en associant ça très bizarrement à des gens qui revendiquent le fait d'avoir mis le feu à une gendarmerie, on ne voit pas trop le lien, mais si on voulait faire passer le message que finalement ces personnes qui, en solidarité à des camarades inculpés dans une affaire de voiture de police qui brûle, vont faire brûler une gendarmerie, sont quasiment des tueurs d'enfants, on ne s'y prendrait pas mieux. Et donc ça se vautre complètement là-dedans, en faisant des liens. Alors en fait, ils expliquent que lors de l'incendie, il y aurait des scellés qui auraient été détruits par l'incendie, mais que du coup, chance, l'affaire de la petite Maëlys n'est pas concernée, donc on est bien dans le glauque. Donc du coup, on rajoute, pour faire cliquer les gens, on ajoute du fait divers extrêmement glauque, mais malheureusement très courant, c'est quand même... ce qui se passe à une actualité récente, donc on est vraiment dans le catastrophique. Alors voilà, les médias libres souffrent, les médias libres ont de la répression, mais finalement, la grande presse, elle continue bien ses dégueulasseries et personne l'emmerde, personne va la voir en lui disant le traitement que vous en faites est absurde, putassier et dégueulasse.
Oui, j'ai l'impression que tant qu'on dépolitise l'information... Va bien. Et on avait quand même envie de vous dire, parce qu'il y a plein de presse qui est chouette, mais il y a aussi plein d'actions qui sont chouettes. Et là, on vous parlait de la presse qui relaie parce que ça nous paraît important. Mais c'était pas du tout pour minimiser aussi tout ce qui est de l'ordre de l'action et des trucs de soutien qui sont mis en place sur le terrain. Donc, on vous a parlé de cet incendie à Grenoble. On avait aussi envie de vous dire que les attaques de solidarité se multiplient dans l'Hexagone autour du coup de ces dates de procès dont on vous a parlé il y a une dizaine de minutes. Et qu'on peut trouver une chronologie qui, si elle n'est pas exhaustive, se veut essayer de recenser un maximum de ces actions directes qui sont réalisées en solidarité avec les inculpés de cette affaire. On peut le trouver sur Paris Lutte. Ça s'appelle, donc si vous voulez chercher l'article, Keuf mobile brûlé, la solidarité, c'est l'attaque. Où on y apprend que, par exemple, mardi, il y a eu plusieurs attaques, par exemple à Toulouse. Alors à Toulouse, ça n'a pas été une attaque, ça a été une banderole qui a été mise sur une église en solidarité. À Limoges, il y a eu un incendie de 5 voitures de la gendarmerie qui s'est effectué aussi le mardi. Il y a des appels à rassemblement aussi à Paris qu'on trouve quasiment quotidiennement. À Bâle, en Suisse, il y a depuis plusieurs jours des coups de couteau qui sont mis dans les voitures de plusieurs entreprises représentantes et du capitalisme et de l'armurerie, parce qu'il ne faut pas les oublier. Évidemment, de l'appareil répressif qu'ils ont mis un peu partout. Autant d'idées peut-être, ou en tout cas de marques de soutien qui sont importantes à relayer à une époque où les grands médias ne font que dépolitiser des actes qui ont du sens et qui luttent contre la violence hautement symbolique mais pas que réelle de l'État répressif aujourd'hui.
Thank you. points critiques à ne pas dépasser. En tant qu'informateur, je me sens obligé de dévoiler la vérité, car le silence ne sera plus jamais toléré. Oh oui, c'est triste à dire, mais tu n'as pas compris
pourquoi les jeunes de mon quartier vivent dans cet état d'esprit.
La délinquance avance,
et tout ceci a un sens,
car la violence coule dans les veines
de celui qui a la haine.
Ok, je reprends les rênes pour faire évoluer ton esprit.
Oui.
Prisonnier d'un système où les règles ne sont pas les mêmes. Suivant ta classe,
yeah.
Suivant ton style,
oui.
Suivant ta face, suivant ta race. Le rouage est bien huilé, le système bien ancré. Ok, mais n'oublie jamais que je suis armé de paroles pour m'imposer,
m'imposer,
m'interposer, processus enclenché. Je balance ma vérité. Le monde est demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La violence est dans nos mains, alors écoute enfin. Qui bouge, qui lutte, qui combat l'oppression. Le peuple en action, voilà la solution. Attention, méfie-toi de la puissance venue du bas qui saura faire sonner le glas. Avec perte et fracas,
oh, la tête par chaîne, qui dit nous par louer. Car la situation, l'institution devienne dérision. Et laisse ton OS faire tomber, les dictatures n'empêchera pas la rupture. Car l'humain s'entête dans sa folie, rien ne l'arrête. Alors toi qui te dis roi, sois roi de ta foi, et non pas de ton frère. Et donc toi que j'appelle frère, quand finiras-tu de taire ses craintes et d'alimenter par ces mêmes craintes le pouvoir.
Et répression toujours. Alors, on vient d'écouter la chanson de NTM, Le Monde de Demain. Mais répression toujours, on part dans le nord-est de la France, à Bure, dans la Meuse. On vous en a parlé souvent dans le Canu Info. Un camp antinucléaire y est monté. Et du coup, c'est pour relayer cette alerte, puisque mercredi matin, dès 6h du matin, 150 gendarmes ont perquisitionné la maison de résistance de Bure, la gare de Luméville, à côté de Bure. Et puis, trois domiciles privés qui se situent à Mandres, à Commercy et dans le nord de la Meuse. Tout ça sous l'ordre du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et du procureur. Donc voilà, en gros, à partir de 6h du matin, des flics ont perquisitionné tout ça et ils ont justifié leur entrée, notamment à la maison de la résistance, par la commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de Bar-le-Duc relativement à une action sur l'hôtel-restaurant du laboratoire de Landrin qui a eu lieu en juin dernier. Voilà, donc ils sont rentrés, enfin on imagine les moyens qu'ils ont utilisés, hein, ils sont rentrés dans la maison au pied de biche, ils ont pété des vitres, voilà, ils ont relevé les identités de tout le monde. Il y avait donc des gens partout, des chiens anti-drogue, des barrages et des contrôles qui ont été mis en place partout. Voilà, donc du coup l'info a circulé dès mercredi matin et puis des appels ont eu lieu assez rapidement pour déjà relayer l'information, mais aussi pour appeler à des rassemblements décentralisés en soutien, donc à Bure, un peu partout en France. Il y a eu plusieurs rassemblements un peu partout, notamment à Paris, il y en a eu régulièrement, il y en a eu à Lyon, il y en a eu dans plein de villes, il y en a eu à Nancy je crois, pas très loin de Bure, à Metz et autres. Et donc on va vous lire cet appel.
Ouais, c'est un appel qui est notamment signé par des chouettes et des hiboux, habitants et habitantes de Bure. Bonjour à toutes et tous. Ici, en direct de Bure, une opération de perquisition d'ampleur cible différents lieux. Ils ont notamment saisi la quasi-intégralité du bureau de la maison de résistance, photocopieuse comprise. Heureusement, ils n'ont pas touché à notre chatte Minette qui aime se blottir. Et du matos, etc. Vite pété, porte fracturée, camarades embarqués pour, je cite, rébellion, habitants intimidés, contrôle filtrant, domicile privé éloigné de Bure, perquisitionné avec petites questions sur la vie familiale de la personne, etc.
Bref, tout ça nous rappelle de grandes et touchantes heures de coups de filet sur les mouvements de lutte, même s'ils ne feront pas l'erreur de sortir cette fois-ci la qualification terroriste.
Là, sur le moment, nous nous sentons fragiles, vulnérables, choqués. C'est un vrai coup, même si cela fait des mois que nous nous y attendions. Mais on ne s'attend jamais vraiment, même quand on vit avec les flics partout, à les voir débarquer au cœur de nos lieux de vie, nos intimités, fouiller nos chambres, nos caravanes, camions, bureaux, tout déplacer, fouiller avec leurs mains de mort tout ce qui se constitue nos vies.
On ne s'attend jamais vraiment à ça. Et ce qui nous fait tenir, ce qui nous donne de la force pour contrecarrer immédiatement leur opération politique, c'est de sentir tout le soutien et les messages d'affection et de pensée qui parviennent d'un peu partout.
Vu l'ampleur de la stratégie de tension déployée pour isoler et épuiser ce qui se joue à Bure, le soutien décentralisé est plus que jamais crucial et décisif.
Nous appelons donc, partout où vous êtes, via les comités ZAD ou alors les comités grands projets ou toute autre initiative, à organiser des rassemblements de soutien dès ce soir ou dans les jours à venir devant les préfectures et à constituer, si ce n'est pas déjà fait, des comités de soutien pour faire face à la stratégie de la tension et affirmer la consistance de nos résistances, pour répondre par un surcroît de solidarité à ceux qui visent à les affaiblir, pour continuer de construire un mouvement d'ampleur qui, à Bure et ailleurs, refuse l'atomisation sous toutes ses formes.
Nous sommes corps à corps, nous sommes terre à terre, nous naissons de partout, nous sommes sans limite.
À très bientôt.
Des chouettes, des hiboux, les gravitants et gravitantes de Bure.
Voilà, c'était l'appel. Pour quand même dire à quel point, pour le coup, ces perquisitions avaient aucune consistance politique, c'est qu'un des arguments aussi qui a été utilisé, c'est la lutte contre la drogue. Et du coup, il n'y a rien... Enfin, c'est... On est vraiment, il faut arrêter de penser sur des notions de légalité ou illégalité. C'est de la répression politique sur des actions qui sont politiques et peuvent être utilisées à peu près n'importe quel argument, des plus fallacieux aux plus graves, pour faire des perquisitions, pour faire peur, pour empêcher les mouvements sociaux, pour empêcher la lutte. Et c'est très important de se rassembler. On ne sait pas vraiment s'il y a eu un rassemblement à Lyon ou comment est-ce qu'il s'est passé. On est aussi preneur de savoir s'il y en a eu un qui s'est passé ou pas. Que les informations circulent et que la solidarité soit organisée et surtout qu'elle soit visible.
Comme un réveil en pleine nuit avec l'angoisse du jour qui suit, comme la démence qui s'invite quand j'entends ton histoire crier vengeance, comme mon regard qui se transforme et subitement j'ai un grand froid, comme l'envie de tout arquer quand je capte que t'essayes de niquer, comme une roue trop mal serrée qui t'envoie direct au fossé, comme un boulon cérébral arraché au pied de biche, cette envie de chialer quand je vois les œdèmes sur tes mains, ce gouffre mental dont tu te fous, comme un boxeur délaissé qui peut pas se battre avec lui-même, comme ton corps putréfié que tu dégustes avec délice,
comme si j'avais des bottes flics, comme si la mer c'était une flaque, comme clic clic. Je n'ai plus de balles, j'ai pas faim de faire mes mains de ça me ferait mal. Comme si j'avais les potes flics, comme si la mer c'était une flaque. Comme clic clic. Je n'ai plus de balles, j'ai pas de flamme et fermer ma gueule ça me ferait mal. Comme un ours dans l'enclos du zoo, comme une envie latente de pogo dans la file d'attente, comme un seppuku raté, comme une araignée sous la croûte avec une grosse envie de gratter, comme un ex-punk bureaucrate, comme une attraction pour touristes, comme des vacances à la ferme ta gueule, comme une pin-up 4 pour est, comme un vigile à la déchette, comme une plante verte barbelée, comme une défonce à la bombe chaude, comme une camisole de chez Nike, une robe de chambre et l'air baissé, un masque à gaz sous l'oreiller, comme un monstre effrayé, comme un cadavre mis en rayon, comme un prof de sport en treillis, comme un huissier blessé qui s'étonne, comme un gros son sans l'acétie, comme un rappel que c'est die. Comme si la mer c'était une flaque, comme si la mer c'était une flaque, comme clic clic. Je n'ai plus de balles, j'ai pas de flamme, les flammes et ma gueule ça me ferait mal. Comme si j'avais les potes flics, comme si la mer c'était une flaque, comme clic clic. Je n'ai plus de balles,
j'ai pas de flamme, les flammes et ma gueule ça me ferait mal.
Comme une odeur de défaite, l'idée fixe de vengeance, de dire rien qui fait défaut.
Comme un coup de pied, comme on s'explique, comme un violent coup de relance, ça pousse à pain dans l'habitat, pas laisser la vitre électrique.
Comme un arrière-roulage, bon entre le médoc et le plastique, un coup de fer dans ton casse-dalle, de l'eau de javel dans ton pastis.
Comme un retour de manivelle, comme dans ta gueule, la ganivelle, comme on doit là où ça fait mal.
Comme du sucre dans ton réservoir, comme un ramor dans ton radiateur.
Comme un chewing-gum dans ta serrure, comme l'escarpin au talon fil, de l'acétone sur ton fond de pain, comme une vipère dans ta chaussure.
Comme un soupir radieux par un bon matin irradié,
comme un coup de ciseau sur ta mine réjouie,
comme un cocktail lancé sur ta terrasse,
comme la vision de ton yacht échoué,
qui fait pleurer même si t'es riche. Comme si j'avais des potes flics, comme si la mer c'était une flaque, comme clic clic. Je n'ai plus de balles, j'ai pas de flamme, les flammes et ma gueule ça me ferait mal. Comme si j'avais des potes flics, comme si la mer c'était une flaque, comme clic clic. Je n'ai plus de balles, j'ai pas de flamme, les flammes et ma gueule ça me ferait mal. We'll be right back.
Et c'est toujours le Canu Info du vendredi. On vient d'écouter NRBC. Clic, clic. On enchaîne dans ce climat insurrectionnel, mais aussi de répression et d'intimidation. Les fameuses ordonnances estampillées loi travail, voilà, dont on a entendu parler et pour lesquelles, contre lesquelles on a manifesté, ont été signées aujourd'hui à grands coups de caméras, de télé et tout ça pour notre cher président. Alors, pour rappel vite fait, on a un des petits top 5 des ordonnances les pires de la loi travail, puisqu'on rappelle que ces ordonnances prévoient la suppression des primes, des tickets resto, du 13e mois, et tout ça par simple référendum organisé par le patron, bien sûr. Par exemple, la généralisation du CDI de projet, pour lequel il faut comprendre, enfin transformer CDI en CDD, parce qu'en fait, ça n'est pas du tout un CDI, c'est juste un CDD assez long et pour lequel on n'aura pas d'indemnité de précarité, parce que du coup, on se dit que ça sert à rien. On peut aussi voir, par exemple, la transformation des licenciements collectifs en rupture conventionnelle collective, comme la rupture conventionnelle qu'on connaît, mais là, ça sera collectif. Du coup, plutôt que de faire un licenciement, de donner encore des primes, etc., ça serait donc des ruptures conventionnelles qui seraient signées. Voilà, et tout plein de. Et aussi la suppression des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les fameux CHSCT, et aussi les élus du comité d'entreprise. Donc, du coup, bon, des fois, on peut entendre que ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais quand même, des fois, ça sert un petit peu à défendre les salariés les plus précaires ou autre. Alors, on nous fait croire tout que la flexibilité, maintenant, c'est la sécurité, voilà, et choses comme ça. Alors, on peut rappeler quand même que la flexibilité, c'est finalement licencier plus facilement. C'est aussi des temps de travail et des horaires qui sont variables, qui nuisent donc notamment à la vie personnelle, associative et autres des personnes, qui nuisent aussi, du coup, bah, des salariés, encore une fois, les plus précaires, parce que c'est eux qui ne peuvent pas refuser. C'est eux à qui on va demander d'être le plus flexible. Du coup, de la même manière que ces histoires de référendum, elles font que c'est plus la loi qui décide pour tout le monde, mais que c'est au sein de chaque entreprise. Le patron va dire, oh, quand même, on pourrait dire qu'on travaille le dimanche, oui, vous n'êtes pas d'accord. Puis voilà, puis il y a un référendum, et puis on dit, ah, bah d'accord. Du coup, c'est plutôt du truc un peu local qui va primer sur un truc national, droit du travail et autres. Avec, pareil, la suppression de ces comités d'hygiène et de sécurité qui font effectivement qu'on ne prend plus en compte, enfin, que la prise en compte des métiers pénibles et tout ça sera encore moins reconnue, puisque c'était un des rôles de ce comité. Donc, du coup, voilà, on voit un peu à quelle sauce les travailleurs et travailleuses vont être mangés, mais tout ça, notre président s'en félicite. Voilà, depuis ce matin en direct, il a tout signé. Tout va rentrer en plus, enfin, tout va être, dès que c'est passé au journal officiel, hop, ça va être mis en place directement. Du coup, pas le temps de. Pas le temps d'y réfléchir. Voilà, voilà. Donc, bah, c'était juste pour faire un petit parallèle avec tout ce qu'on vient de dire avant et tout ce qui. Enfin, voilà, on fait un peu comme si le reste n'existait pas et puis on fait passer tout ce qu'on veut comme on veut, comme si les manifestants dans la rue depuis des mois, on ne les voyait pas non plus. Et voilà, du coup, c'était.
Mais il devrait quand même se réjouir, les manifestantes et les manifestants dans la rue, parce qu'en fait, on fait comme s'ils n'existaient pas, mais on leur prépare comme deux, trois trucs pour pouvoir leur taper dessus et que ça pose pas trop de problèmes. Et ça s'appelle l'entrée de l'état d'urgence dans le domaine commun. Et là-dessus, nos gouvernants, donc Gérard Collomb, notre ancien grand-mère, et Emmanuel Macron, notre président actuel, s'en foutent un peu. Maintenant, ils assument complètement, puisqu'ils ont parlé de sortir de l'état de droit. Alors certes, il s'agit d'un lapsus collectif. Alors on va d'abord reprendre dans le mauvais ordre en parlant du déplacement d'Emmanuel Macron ce 19 septembre pour un discours aux Nations Unies. Il est également ensuite allé s'exprimer devant plusieurs centaines de membres de la communauté française. Une occasion qui lui a permis de parler de la future levée de l'état d'urgence, donc il a promise pour l'automne, hein, donc une levée qui est en fait une grosse blague, puisqu'elle est remplacée par le fait que l'état d'urgence rentre dans le droit commun, qu'il devienne donc permanent, et une série de mesures mises en place après les attentats de 2015 deviennent donc non plus de l'exceptionnel, même si on avait fini par s'y habituer malheureusement, mais du normal, c'est-à-dire c'est la loi de base. Mais comme Gérard Collomb l'avait fait avant lui, quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron a eu la langue qui a fourché, oh c'est dommage, annonçant qu'en novembre, la France qu'on sortira de l'état de droit. Et non, de l'état d'urgence. C'est un peu couillon. C'est plutôt ironique, puisque certains lui reprochent quand même de piétiner l'état de droit avec ses mesures d'exception qu'il entérine dans la prochaine loi antiterroriste. Finalement, peut-être qu'il y a là-dedans derrière un truc psychanalytique un peu bizarre où il assume ses idées. Bref, l'AFP, explique qu'il a réalisé son lapsus, mais qu'il a ironisé devant le silence de la salle. C'est-à-dire que personne n'a réagi finalement. Ça n'a pas choqué grand monde. Donc on sort de l'état de droit.
Premier degré, second degré, troisième degré.
Exactement, c'est tu sais, à la Macron, c'est en même temps on est dans l'état de droit et en même temps on en sort. Bon, bref. Et il a quand même eu cette phrase assez exceptionnelle, je cite, « Je constate qu'il n'y a pas eu de réaction, j'ignore si c'est de la torpeur ou de l'acquiescement, je choisis le premier. » Donc il pense que les gens étaient dans la torpeur, donc ouais. Tu te dis « Ok, Coco, tu fais quand même effectivement la torpeur, finalement, il n'est pas totalement tort, ça s'impose un petit peu. » Quelques jours plus tôt, on revient à Gérard Collomb, on ne vous en parle plus assez, comme maire de Lyon, on vous en parle beaucoup, comme ministre de l'Intérieur, finalement, il continue le même taf répressif et libéral, c'est pas très surprenant. Lui, il intervenait devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, donc c'est donc pas un propos tenu sur un média à l'arrache, mais devant la commission des lois nationales. Et il a exposé sa vision de la sécurité, puis il lâche, je cite, « Sur la sortie de l'état de droit, vous savez que le Conseil, et là il se reprend, et il dit « De l'état d'urgence, pardon ». Et justement, il précise que le Conseil d'État dit que c'est un régime qui, justement, dans un état de droit, ne peut être organisé que de manière temporaire et que ce renouvellement ne saurait se succéder indéfiniment. En gros, là, il justifie précisément le fait que ça devienne normal, c'est-à-dire vous nous embêtez parce que ça respecte pas vraiment les droits de l'homme, etc. Mais si c'est dans la loi commune, le Conseil constitutionnel ne nous embête plus, donc c'est cool. Et finalement, sortir de l'état de droit et s'installer dans l'état d'urgence permanent, apparemment, quoi qu'ils en disent, nos dirigeants, ça a l'air un petit peu de les travailler quand même.
Et puisqu'on est dans la punchline, on a encore entendu ce matin que Emmanuel Macron a dit que la démocratie, ça ne se passe pas dans la rue. Du coup, ces choses dites, les manifestations ne sont de toute façon pas un levier d'action suffisant pour le gouvernement.
Et dans la punchline toujours, on revient sur Gérard Collomb qui fait une très belle sortie cette semaine. Il a expliqué qu'il était contre l'extension de la PMA, donc déjà légale, on le rappelle, hein, pour les couples hétérosexuels, aux femmes seules et aux femmes en couple avec une autre femme ou lesbienne, en expliquant que cela allait nous transformer en tous cousins. T'es gentil, Coco.
Et tout ça, ça nous fait mal au ventre, ça nous fait peur, mais ça va pas nous empêcher de sortir, alors on passe à l'agenda.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et parce qu'après toutes ces informations-là, on a vraiment envie de se défouler, mais on a aussi envie de trouver des outils pour se défendre. Et ben direct, on monte dans sa voiture et on va au week-end de rencontres sportives de l'Amicale du Combat Libre, qui ont lieu demain et après-demain dans le Trièves. Alors, mini rappel, l'Amicale du Combat Libre, ou alors les ACL pour les intimes, s'entraîne tous les mardis et mercredis à l'atelier des Canulars. L'atelier des Canulars, on ne vous le présente plus, c'est 91 rue Montesquieu dans le
7e arrondissement de Lyon.
Et du coup, ils ont décidé de proposer ce week-end, les 23 et 24 septembre, un week-end entier de rencontres sportives au Moulin de Recours à Saint-Maurice en Trièves. Au menu, des ateliers de découverte, un gala, des concerts, des rencontres et des discussions, des repas partagés, des balades et même des ateliers tronçonneuses. Du coup, si vous voulez l'adresse exacte, on vous invite à aller sur le site rebellion.info, mais surtout on vous invite à vous organiser pour pouvoir y être dès demain matin. Oh, rentrée de ce week-end-là où vous auriez fait plein de nouveaux amis et en plus où vous aurez appris les bases du tai chi, on vous invite à aller mardi au mouvement de soutien pour la psychiatrie. Que vous soyez pour ou contre l'institutionnalisation de la psychiatrie, ce qui se passe en hôpital psychiatrique, par contre, je suis sûre que vous êtes contre le fait des baisses de budget et surtout des prises en charge inacceptables des patients et des patientes. Et pour aller rencontrer ces personnes-là, et du coup, on vous invite à vous rendre à 10h30 mardi devant la gare de la Part-Dieu pour faire un cortège devant l'ARS, l'Agence régionale de santé, désolé, qui se situe 241 rue Garibaldi. Pour vous dire quand même un peu les mots d'ordre de ce rassemblement contre la destruction de la psychiatrie, On vous dit non à la dissolution, au démantèlement de la psychiatrie, non à la politique d'austérité qui détruit ce service indispensable rendu au public et met à mal la cohésion sociale, non aux fermetures de lits, d'hôpitaux de jour et autres structures d'accueil, non aux suppressions de postes et à la réduction des effectifs auprès des patients, non aux politiques ou à l'absence de politique de soins qui favorise l'augmentation des situations de violence, non à l'institutionnalisation du mépris de la souffrance au travail qui touche les salariés dans tous nos établissements. Une fois que vous aurez fait ce rassemblement, mercredi,
vous aurez sans doute très faim, mais quand vous avez très faim, vous n'allez pas commander un plat sur Deliveroo parce que quand même, c'est pas sympa. Et justement, les coursières, les coursiers de Deliveroo s'organisent et ils s'organisent au plan international. Et donc, le 27 septembre, on en parle souvent ici des coursiers et des coursières à vélo, le 27 septembre, il y aura une journée d'action internationale contre Deliveroo. Il y aura une action à Lyon. Les informations à suivre sur rebellion.info.
On vous parle souvent aussi du droit à l'IVG ailleurs, mais aussi en France, et c'est un droit qui est continuellement à défendre. Et du coup, pour ça, il y a des rassemblements européens en ce moment, et notamment à Lyon, par exemple, ce jeudi 28 septembre, à 18h30, place de la Comédie, c'est-à-dire place de l'Opéra, dans le 1er arrondissement de Lyon, au métro Hôtel de Ville. Vous pourrez vous rassembler en place publique pour réaffirmer notamment que l'accès à l'avortement est un droit.
Eh bien, on passe tout de suite à un programme qu'on a reçu sur Radio Canu qui est la semaine prochaine. C'est le 29 et 30 septembre, mais aussi le 1er octobre. C'est un festival qui aura lieu à Saint-Jean-des-Vignes, dans le Rhône. C'est entre Lyon et Villefranche. Et c'est un festival qui s'appelle le Chant des Pierres, qui existe depuis 10 ans, qui fête ses 10 ans cette année. Et c'est donc un événement culturel en milieu rural qui a lieu afin de mettre en valeur des artistes locaux et des découvertes nationales dans une ambiance familiale et conviviale. Tout ça en contribuant au dynamisme de la vie locale. Voilà, c'est une programmation éclectique, en journée, en soirée. L'entrée se fait à prix libre afin que l'accueil puisse se faire à tout le monde. Et puis voilà, du coup, c'est une belle façon, disent-ils, de fêter la fin de l'été et de repartir en vacances le temps d'un week-end. Vous retrouvez, je pense, l'info sur internet en tapant Festival Le Chant des Pierres. Et puis sans transition aucune, on a envie de vous parler d'une revue qui vient de sortir cette semaine, ou la semaine dernière peut-être, je ne sais plus, qui s'appelle Panthère Première, et voilà, qui est fait exclusivement par des filles, une revue féministe avec plein de thèmes divers qui est super chouette, et je vais vous lire un passage de leur édito, qui s'appelle « Félin pour l'autre ». Imaginez une revue qui s'appelle Panthère Première, c'est se retrouver en février 2016 à Marseille et se dire qu'on a envie de se lancer dans cette aventure tout ensemble. Celle qui s'était connue autour d'autres revues et celle qu'on rencontrerait chemin faisant. C'est se dire, oui, une revue mais pas n'importe comment, en réunissant des équipes éditoriales et techniques non mixtes pour s'essayer à d'autres manières de travailler. En ouvrant nos colonnes aux plumes qui se font trop discrètes, en réfléchissant à une économie de la revue qui nous offrirait les moyens matériels nécessaires à une production de qualité et qui ne reposerait pas entièrement sur le bénévolat. Concevoir une revue qui s'appelle Panthère Première, c'est commencer par lister des titres de rubriques absurdes et enchaîner le jeu de mots carnassiers avant de s'accorder, en mai 2016, sur l'idée d'une revue généraliste et féministe qui s'intéresse aux différentes manières dont le personnel est politique. C'est décider d'explorer, d'un numéro à l'autre, les intersections entre ce qui est communément renvoyé à la sphère du privé, famille, enfance, habitat, corps ou sexualité, et les sphères systémiques, état, marché, travail. En partant du principe que les formes de domination, de résistance et de créativité s'ancrent et se pérennisent dans ces plis, c'est adopter une ligne éditoriale qui reconnaît que les expériences vécues peuvent faire l'objet de questionnements critiques. Voilà, le début de leur édito qui m'a fait envie et je pense qui peut faire envie.
Et alors, comme ce numéro est fait spécialement envie, qu'on vous a pas mal parlé de répression aujourd'hui, on vous a aussi parlé de répression de médias. Il n'y a pas que de la répression chez les médias libres, il y a aussi donc ce tout petit dernier, là, le nouveau-né, Panthère Première. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce nouveau numéro? Dans ce premier numéro, je vais essayer extrêmement vite, alors que les pelles mortes se ramassent à la feuille et que les duendes andalous s'invitent dans nos pages, on sortira des marins du Grand Bleu, on suivra des contrebandières dans les ressacs de la chute du bloc soviétique, on marquera un arrêt dans la salle télé d'un hôpital psychiatrique, on éprouvera le dilemme de femmes prises en étau entre féminisme blanc et antiracisme viril. On servira le déni au dîner, le temps d'un repas familial. On coupera la chic à celles et ceux qui tranchent les vulves pendant les accouchements. On écoutera les témoignages des récents massacres mexicains. On s'attardera en images sur la guerre Iran-Irak. On mangera des broussailles par la racine. On chantera main dans la main. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Je t'aime.
Et le moment venu, on pénétrera dans qui proclash. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. L'univers des paroles déplacées à la sauce panthère, celui des langues déliées et des langues mordues. Et il y en aura pour tout le monde, petites et grandes, esclaves sous inquisition, psychanalystes et dissidentes chinoises. Panthère première, c'est super joli, c'est super classe, on a dans les mains et on vous recommande vraiment de le lire. Oui.